le groupe URD, Urgence Réhabilitation Développement, a sorti en partenariat avec l'ALNAP le manuel de la participation à l'usage des acteurs humanitaires. Nous en parlons avec Pierre Brunet, coordinateur du pôle formation au sein du groupe URD.
Alors en fait, il s'agit du résultat d'une étude qui a été commanditée par le réseau ALNAP, basé à Londres. Il s'agit en fait de l'Active Learning Network on Accountability and Performance. C'est un bureau, si vous voulez, qui s'intéresse à l'amélioration des pratiques du secteur humanitaire, résultante de recommandations, notamment de la première évaluation, grosse évaluation multi-buyer qui a eu lieu après le Rwanda. Pour éviter de répéter certaines erreurs, il y a eu différents dispositifs qui ont été testés. ALNAP est un des premiers, il perdure aujourd'hui et donc il a le mérite de regrouper à la fois des évaluateurs, des bailleurs, donc des États via leur ministère des Affaires étrangères et puis des consultants ou des instituts de recherche, entre autres le groupe URD.
Et donc ce réseau a mis en place pendant 2 ans une étude globale sur la participation des populations et quel a été le constat ?
Oui, il a confié au groupe URD cette étude et le constat, après donc 6 études de terrain en Afrique, en Asie et en Amérique latine, a été que petit à petit le discours général prône de plus en plus l'importance de la participation des populations affectées pour l'amélioration des interventions humanitaires, mais qu'au niveau de la pratique, sur le terrain, ça a du mal à suivre. Malgré l'utilisation de techniques participatives et leur plus large diffusion depuis quelques années, on se rend compte, notamment dans des contextes plus d'urgence, que les acteurs ont trop souvent tendance à partir du principe que c'est pas le moment, qu'ils n'ont pas le temps et que c'est impossible. C'est pas toujours facile, mais c'est rarement impossible, même dans des contextes d'urgence, et que souvent les bénéfices sont très importants.
Alors, quel type d'implication est-ce qu'on peut attendre des personnes affectées par une crise ? Qu'est-ce qu'on peut leur demander ? Et du coup, quels obstacles opposent-ils à leur participation ?
Le spectre est assez large. Ça va de l'Amérique latine, notamment la Colombie, qui était dans le cadre de l'étude, où on ne peut pas intervenir sans faire de la participation. C'est une donnée très claire, plutôt au niveau des habitudes des populations. Elles rejetteront un projet qui ne prendra pas en compte leur point de vue. Alors que dans certaines régions d'Asie, où les personnes sont moins habituées à exprimer leurs opinions, ça va parfois être très délicat de mettre en place une approche participative parce qu'on va un peu contre les habitudes. Ça va être un frein énorme au processus qu'on souhaite par ailleurs. Donc c'est vrai que sur des délais très courts d'intervention, il va falloir prendre en compte cette donnée-là. Le manuel est assez transversal. Ce sont dans les monographies qu'on retrouve les cas précis. Donc il y avait la République démocratique du Congo, il y a eu la Colombie, le Sri Lanka, la Guinée, l'Angola et l'Afghanistan. Ces monographies, elles avaient une fonction. Au-delà de la publication d'un ouvrage, il y avait dès le départ l'idée d'un manuel transversal sur la participation, qui n'est pas un ouvrage de technique participative. Ça, on en trouve beaucoup, notamment dans le monde du développement. C'est des outils qui sont souvent empruntés aux sciences sociales, en général anthropologie et sociologie, techniques d'entretien, de questionnaires, de groupes de travail, etc. Donc si vous voulez, le manuel, lui, les liste dans sa dernière partie qui concerne les outils et ressources. Mais l'idée, c'était de faire un ouvrage qui prenne un peu de recul, qui permette l'analyse par les acteurs des situations dans lesquelles ils se trouvent et de la manière par laquelle ils peuvent agir avec les outils qu'ils possèdent par ailleurs. On cible clairement les acteurs humanitaires, que ce soit des institutions, quelle que soit leur nature, publique ou association, ou même des personnes indépendantes, qui s'interrogent sur 2 choses, qui est le plan en fait de l'ouvrage. C'est comment on conçoit une stratégie d'implication des populations, quel type de participation on veut faire, qu'est-ce qui va affecter cette participation, comment on communique, comment on construit des partenariats. Donc c'est dans un premier temps toute cette réflexion. Et la deuxième partie, c'est comment on la met en œuvre, cette stratégie. Donc là, on traite phase par phase, de manière plus classique, le cycle de projet qu'on utilise, donc du diagnostic à la conception, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation, et voir comment à chaque phase, en fait, il y a une approche pour mettre en place de la participation. Le groupe URB est un institut associatif qui mêle différentes activités. En premier lieu, on pourrait dire des projets de recherche opérationnelle sur différentes thématiques. À l'origine, le lien urgence-développement qui donne le nom à l'association. Groupe URB voulant dire urgence-réhabilitation-développement. Mais depuis, ça s'est beaucoup élargi en même temps que la structure grandissait, que nombre d'employés croissaient, puisqu'on est aujourd'hui plus d'une vingtaine. Donc aujourd'hui, ces projets de recherche, c'est la participation, c'est la qualité de l'aide, c'est l'architecture de l'aide, c'est l'espace humanitaire, c'est l'environnement, l'intégration de l'environnement dans l'action humanitaire. Enfin, c'est toutes ces thématiques-là qu'on retrouve aussi dans un autre type d'activité qui est l'évaluation de programmes et de projets. Donc on évalue des programmes pour tout un tas de commanditaires qui peuvent être les agences des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, les ministères des Affaires étrangères de pays français ou autres. On fait donc des évaluations plutôt opérationnelles. Plus récemment, le partenariat entre ECHO et CICR, donc ECHO étant la branche humanitaire de l'Union européenne. On fait des évaluations plus stratégiques. Là, récemment, on a fait, par rapport à la réforme des Nations Unies et la mise en place de systèmes de clusters, qui sont des groupes de coordination thématique. On a été sur 6 terrains, 6 pays différents, voir comment se déroulait la mise en œuvre de cette réforme, voir ses avantages et ses inconvénients et quelles recommandations pouvaient être formulées pour l'avenir.
Et qu'est-ce que ça a donné?
Le constat final, c'est que c'est un très bon lieu d'échange d'informations, mais qu'au niveau de la coordination, qui était le but premier, on retrouve des difficultés qui sont liées à une superposition en fait, de cette nouvelle entité à d'autres structures de coordination préexistantes. Mmh. Donc, il se crée un millefeuille de dispositifs qui ne simplifie pas toujours le travail sur le terrain. Le projet n'est pas abandonné, mais plutôt à mieux coordonner lui-même avec les autres structures de coordination. Donc voilà pour deux activités. Et puis donc les autres sont la formation, la diffusion de toutes ces recommandations, de tout ce qu'on a pu capitaliser sur le terrain lors des évaluations et de la recherche. Donc on publie pas mal d'ouvrages.
Il y a aussi à noter un manuel pour la diminution de l'impact environnemental des actions humanitaires.
Oui, qui est en cours de rédaction, puisqu'il est en test principalement au Tchad, où le groupe URD a ouvert un observatoire des pratiques. Donc, le bureau est basé à N'Djamena. C'est le lieu où on teste actuellement tout un tas d'innovations techniques développées par des acteurs qu'on essaye de fédérer, de diffuser. Et ce sera notre prochain ouvrage, mais c'est aussi l'occasion de débats, de conférences. On a nos universités d'automne de l'humanitaire, donc sur le thème cette année de la ville face aux crises, l'urbain et fragilité urbaine. Il y a des actes qui sont téléchargeables chaque année sur notre site internet. Donc le site, c'est www.urd.org. C'est un site assez complet. Il y a énormément de rapports d'évaluation, de rapports de recherche, donc sur tout type d'acteurs pour lesquels on travaille.
Et à noter donc que le manuel de participation à l'usage des acteurs humanitaires est en libre téléchargement.
Voilà, on a fait ce choix pour faciliter sa diffusion, qu'il soit en libre accès gratuit. Il faut noter qu'il est accessible et disponible en 3 langues, français, anglais, espagnol. Donc il a un fort succès au téléchargement et aussi à la vente au prix de 10 euros. Mais donc on n'est pas dans un système de diffusion classique, plutôt réservé aux professionnels. Donc c'est pour ça qu'on le fait directement via notre site internet.